Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans Two Beatles or Not To Be, une émission sur les Beatles, mais sans les Beatles. ...45 minutes pour écouter les Beatles autrement en explorant l'univers étendu des 4 fantastiques de Liverpool. Le principe de l'émission, vous le savez, c'est de redécouvrir les Beatles avec une contrainte simple, ne rien diffuser de leur discographie officielle. Heureusement, il y a énormément d'artistes qui ont réinterprété le répertoire des Fab Four et qui nous offrent une autre vision de leurs chansons. La reprise qu'on va écouter pour commencer est signée par un grand nom du R&B, Stevie Wonder. En 1970, il publie une version de We Can Work It Out, qu'il rejoue ensuite en 2014 lors d'une soirée télévisée en hommage aux Beatles à l'occasion des 50 ans de leur première apparition à la télé américaine. Stevie Wonder, donc, pour cette reprise Soul en public de We Can Work It Out.
Are you ready? Let's hit it! 1, 2, 3, and I see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? By seeing it your way, run the risk of knowing that our love is soon be gone. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get straight and sing it now. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing.
Les grands noms de la musique tels que Stevie Wonder sont donc nombreux à avoir rendu hommage aux Beatles. Et inversement, les Beatles ont aussi, eux, fait référence à d'autres musiciens célèbres dans certaines de leurs compositions, comme par exemple au guitariste Eric Clapton, ami proche de George Harrison. La chanson Savoy Truffle, signée Harrison sur l'album blanc, est en effet dédiée au bluesman britannique. Intégralement consacré au thème du chocolat, ce titre est en fait une taquinerie à propos de l'addiction d'Eric Clapton vis-à-vis des sucreries. George Harrison s'empare un jour de la boîte de chocolat que Clapton est en train d'engloutir et utilise la liste de noms de confiseries inscrites dessus pour écrire sa chanson. mandarine crémeuse, montélimar, noix de coco caramélisée et truffe savoyarde Savoy Truffle. La reprise signée They Might Be Giants est beaucoup moins rock que l'original, mais justement on a vraiment l'impression d'être affalé dans un canapé et d'enfourner méthodiquement et nonchalamment les différents chocolats les uns après les autres.
Cream tangerine and Montelimar, a ginger sling with a pineapple heart, a coffee dessert, yes, you know it's good news, but you'll have to have them all pulled out after the Savoy truffle. Cherry cream, a nice apple tart. I feel your taste all the time we're apart. Coconut fudge really blows down those blues. But you'll have to have them all pulled out after the Savoy truffle. Feel it now, but when the pain cuts through, you're gonna know and how. The sweat is gonna fill your head. When it becomes too much, you'll shout aloud. But can you show me where you are? Cream tangerine and Montelimar, a ginger sling with a pineapple heart, coffee dessert, yes, you know it's good news. But you'll have to have them all pulled out after the Savoy truffle. Yes, you'll have to have them all pulled out after the Savoy truffle.
On était au début des années 2000 avec le duo new-yorkais They Might Be Giants, dont je vous conseille d'ailleurs l'univers absurde et expérimental. Pour redécouvrir les Beatles en évitant leur discographie officielle, on peut donc écouter des reprises, comme on vient de le faire, mais on peut aussi jeter une oreille à ce qu'ils ont fait avant. Pour vous fixer les choses, cette discographie officielle démarre avec la parution du premier single du groupe, Love Me Do, en octobre 1962. Mais pile un an plus tôt, les amateurs de musique ont déjà eu l'occasion d'entendre les Beatles sur un autre disque, mais sous un autre nom, les Beat Brothers, ou plus précisément Tony Sheridan and the Beat Brothers. Et oui, pour leur première apparition dans le circuit commercial, les Beatles sont en fait un groupe d'accompagnement. Il s'agit d'une série d'enregistrements réalisés lors d'une des résidences du groupe dans les petits clubs de Hambourg en Allemagne, durant lesquels le musicien britannique Tony Sheridan, qui a plus d'expérience, est leur mentor. Ce premier disque sur lequel on entend les Beatles est un single. Il y figure en face A une reprise rock'n'roll d'un traditionnel écossais, My Bonnie Lies Over the Ocean, rebaptisé pour l'occasion simplement My Bonnie. Une chanson à fort potentiel commercial puisqu'elle est populaire chez les marins de Hambourg et chez les Allemands qui l'apprennent en cours d'anglais. My Bonnie, donc avec Tony Sheridan au chant et John, Paul et George au chœur. John est aussi à la guitare rythmique, Paul McCartney à la basse. Ringo Starr n'a pas encore été recruté, c'est donc toujours Pete Best à la batterie. Et George Harrison partage la guitare solo avec Sheridan, ce dernier assurant le solo principal.
My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie.
Tony Sheridan and the Beat Brothers, enregistré en Allemagne. Les Beat Brothers qui sont donc, vous l'avez compris, en réalité les Beatles. Au début des années 60, les Beatles alternent ainsi séjour à Hambourg et série de concerts au Cavern Club à Liverpool qui devient leur QG. Et il existe là aussi quelques enregistrements des premiers pas des Beatles de ce côté de la mer du Nord au Cavern Club, notamment un jour de 1962 durant lequel le groupe s'enregistre en répétition, ici avec un instrumental jazzy signé Paul McCartney et intitulé Cat's Walk. C'est désormais Ringo Starr qui est derrière la batterie.
Thank you.
Cats Walk, les Beatles n'incluront jamais ce titre à leur disque. Paul McCartney le déterre tout de même 5 ans plus tard pour l'offrir au tromboniste Chris Barber. Ce dernier en publie donc en 1967 une version jazz accompagnée de son groupe, le Chris Barber's Band. Au passage, la chanson change de nom pour devenir Cat Call. C'est, paraît-il, Paul McCartney qui joue la partie d'orgue. Un enregistrement durant lequel on s'amuse bien, visiblement. Le résultat est excellent, on ne s'explique pas vraiment pourquoi ce single est passé totalement inaperçu à l'époque, malgré la signature McCartney sur la pochette. C'était donc Cat's Walk ou Cat Call, joué à l'origine par les Beatles pendant leur première prestation. Puis vient leur premier véritable single en tant que Beatles, sans Tony Sheridan, Love Me Do comme on l'a dit, puis leur premier album, Please Please Me, sur lequel figure un mélange de compositions originales et de reprises rock'n'roll ou R&B, comme par exemple une reprise de Chains, que l'on doit aux Cookies, un trio de chanteuses américaines qui deviendront plus tard les choristes de Ray Charles. Vous êtes bien dans To Beatles or Not To Be. Pas d'instrument électrique dans le morceau qui suit, pas de guitare non plus, pas de percussion, pas de voix, et pourtant c'est bien une reprise des Beatles qu'on va écouter à présent. Il s'agit d'un quatuor à cordes, c'est-à-dire deux violons, un alto et un violoncelle. Il s'agit de VSQ, le Vitamin String Quartet, un projet californien de reprise à base de cordes frottées, donc, qui s'est frotté, c'est le cas de le dire, à tous les grands noms de la pop et du rock. Ce collectif existe depuis plus de 20 ans, a publié des centaines d'albums, dont des compilations de reprises des Beatles. Paperback Writer, version musique de chambre. On continue cette émission qui s'intéresse à l'histoire des Beatles, une histoire qui se poursuit toujours aujourd'hui, puisque les Fab Four continuent d'être joués et chantés de nos jours. C'est l'heure de la rubrique La reprise du mois, dans laquelle je vous propose une reprise publiée tout récemment et qui m'a tapé dans l'œil ou dans l'oreille, si vous préférez. Aujourd'hui, c'est l'artiste Alberto Garcia, alias Alien Tango, un jeune musicien espagnol installé à Londres. Son univers est complètement barré. Il affirme être connecté au cosmos et restituer la musique d'un univers parallèle, une ambiance psychédélique qui correspond tout à fait à l'album Sgt. Pepper's des Beatles. Alien Tango en a extrait la chanson Getting Better il y a quelques semaines et il l'a réinterprétée avec une énergie indéfinissable et unique que j'aime beaucoup. Pour la fin de cette émission, on va décortiquer une chanson qui a une place particulière dans l'histoire des Beatles, puisqu'il s'agit d'un des plus grands succès du groupe. Nous allons parler de Hey Jude, qui s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires dans le monde, selon les estimations, soit leur deuxième meilleure vente de single après I Want to Hold Your Hand. Hey Jude naît dans la voiture de Paul McCartney sur la route de Weybridge, au sud-ouest de Londres, au printemps 1968. Alors que Cynthia et John Lennon viennent d'entamer une procédure de divorce, Paul décide de rendre visite à l'épouse et au fils de son collègue pour les réconforter dans ce moment difficile. Comme il en a l'habitude, il profite de l'heure de trajet pour élaborer des chansons et il a l'idée d'en adresser une au petit Julian, 5 ans, pour le consoler. Hey Jules se transforme finalement en Hey Jude et les premières répétitions débutent fin juillet au studio d'Abbey Road dans une ambiance plutôt décontractée.
From the heart of the black country.
When I was a robber in Boston Place, you gathered round me with your fun embrace. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
L'enregistrement proprement dit doit se dérouler dans d'autres studios londoniens, les studios Trident, qui sont à la pointe de la technologie avec leur enregistreur 8 pistes, le premier du Royaume-Uni. Les studios habituels des Beatles sont en effet toujours limités à 4 pistes, insuffisant pour la deuxième moitié de la chanson, les fameux nanana, une partie qui doit être accompagnée d'un orchestre. Alors on le sait, Hey Jude est remarquable par sa durée importante, un peu plus de 7 minutes, mais elle est encore plus remarquable par les moyens de parvenir à cette durée. Même s'ils sont plutôt rares, il existe en effet déjà d'autres singles pop-rock d'une longueur comparable, incluant de longs solos, ou bien en tant que medley de plusieurs courtes chansons, ou encore simplement contenant une longue succession de couplets et de refrains. Mais rien de tel ici. Hey Jude est en fait composé de deux parties, bien différentes mais indissociables. La première, la plus courte, est la chanson en elle-même, avec les paroles. La seconde, plus longue, est une sorte d'hymne très simple, répété une vingtaine de fois. Cette deuxième partie est donc, comme on l'a dit, soutenue par un orchestre, dont on entend surtout les cordes frottées et les trompettes, qui s'ajoutent petit à petit pour souligner la ligne de basse. Une technique qui apporte curieusement de la lourdeur et de la stabilité aux instruments rock plus agités des 4 Beatles. Autre curiosité, un très lent fondu démarre très tôt alors qu'il reste encore 2 minutes de musique. Ces deux éléments, basse très présente et fondu très progressif, créent un incroyable effet transcendantal. On a l'impression d'assister au passage d'une longue caravane qui s'éloigne lentement pour disparaître à l'horizon. Les 36 musiciens embauchés pour ce passage ne se sont pas contentés de jouer leur partition. Une fois leur travail accompli, il leur est en effet proposé de doubler leur rémunération en participant au chœur sur ce refrain répétitif, afin de lui donner plus de vie et de volume. À l'exception de l'un d'eux qui s'en va en protestant « Je ne vais pas chanter la saloperie de chansons de McCartney », la plupart acceptent. J'aime bien imaginer les mecs en costard ranger soigneusement leurs violons, clarinettes et autres cordes d'harmonie pour ensuite taper dans leurs mains et reprendre ensemble à tue-tête les nanana jusqu'à 3h du mat. Cette longue coda constitue donc l'apogée du morceau. Pour rendre cette apothéose la plus efficace possible, la chanson est construite auparavant selon une lente et progressive montée en tension et démarre par un simple piano-voix auquel s'ajoute ensuite un tambourin, une guitare acoustique et quelques chœurs, puis la basse. Et en particulier, la batterie, elle, ne fait son entrée qu'à la fin du deuxième couplet, ce qui est en fait dû à un heureux hasard. Quand la séance d'enregistrement débute, personne ne se rend compte en effet que Ringo s'est éclipsé aux toilettes, situé juste à côté de son instrument. Le batteur déboule en catastrophe et rejoint les musiciens à la volée, parfaitement en rythme pour introduire le premier pont musical. Un effet que McCartney trouve génial et décide de garder. Pour mettre encore plus en lumière la coda finale, la première partie de Hey Jude est, musicologiquement parlant, simplissime, ce qui, paradoxalement, est tout un art. La progression des accords et l'enchaînement des couplets et des ponts sont tout à fait standards, et le jeu des Beatles est très sobre. Au niveau du chant, Paul McCartney est tout bonnement exceptionnel. Là aussi, il s'applique à être simple et efficace, et ne distille que quelques toutes petites fioritures terriblement efficaces, comme ce « Let it out and let it in » en arrière-plan. Ou encore cette petite variation sur « Hey Jude ». Quand la première partie se termine, McCartney effectue la transition vers l'hymne final grâce à un véritable tour de force. Il accomplit un arpège sur plus de 2 octaves qui se termine sur un fa aigu habituellement réservé aux chanteuses soprano et chanté ici avec une voix entre guillemets pleine sans avoir recours à la voix de fossé. On l'apprécie bien sur cette version enregistrée en répétition. Et puis sur la deuxième partie, Paul improvise et se lâche complètement avec des interjections mi-chantées, mi-hurlées, mi-rugies. En voici quelques exemples. Bon, finalement, comment expliquer que Hey Jude soit devenu l'un des plus grands tubes de tous les temps, considéré par John Lennon comme le meilleur titre de Paul McCartney ? Évidemment, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions, mais le message véhiculé par la chanson y est probablement pour quelque chose. Ce qui était au départ destiné à consoler un enfant bouleversé par le divorce de ses parents s'est finalement transformé en un réconfortant hymne universel à l'amitié, un encouragement à agir selon son instinct sans trop tergiverser, à suivre l'amour dès qu'on l'a trouvé. Quant au mantra final, il illustre la célébration de cette excitation du lâcher-prise. Allez, c'est la fin pour aujourd'hui dans Two Beatles or Not To Be. J'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez apprécié cet éclairage différent sur les Beatles. Et puis, une fois n'est pas coutume, pas de reprise ni de version alternative. On se quitte avec la version officielle de Hey Jude. Et au fait, si vous vous demandiez, il paraît que la syllabe « na » est prononcée 216 fois dans la chanson. Je vous laisse vérifier.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Found him.